Vous écoutez
RMC.
RMC, il est tout juste 8h.
RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gaby. Rebonjour Clara.
Rebonjour Rémi, bonjour à tous. Encore des jours à venir de lutte contre les flammes dans le Var. Incendie stabilisé, mais pas fixé. Face à des conditions météo difficiles, les pompiers sont toujours sur le qui-vive. Nous serons sur place en direct dès le début de ce journal. Entre boule au ventre et impatience, après plus de 10 jours d'évacuation, des habitants du bassin d'Arcachon vont retrouver leur maison aujourd'hui. Et puis verra-t-on une Française briller sur la 3e étape du Tour de France Femmes aujourd'hui, étape entre Genève et Poligny dans le Jura.
Clara, dans le Var, les pompiers n'en ont toujours pas terminé avec les flammes.
Ils sont 1500 toujours mobilisés pour lutter contre toute reprise de feu. La situation est stable, les évacuations et les confinements ont été levés, mais la chaleur et le vent annoncés font redouter le pire. 1850 hectares déjà partis en fumée. Rachel Sadodine, vous êtes l'envoyée spéciale d'RMC dans le Var, en direct avec nous depuis Corrence, où un gymnase a été mis à la disposition des pompiers. Rachel, c'est un travail de longue haleine qui les attend encore.
Oui Clara, une tasse de café ou un bol de céréales à la main, les pompiers reprennent des forces après une courte nuit passée sur des lits de camp, ici donc à la salle municipale de Corrence. Venus de toute la France et même pour certains de Roumanie, les soldats et soldates du feu affichent des visages souriants ce matin, et pour cause, les températures ont baissé cette nuit, l'humidité est remontée, quelques rares mais précieuses gouttes de rosée glissent même de certaines feuilles. Les habitants de Corrence sont venus leur préparer le petit déjeuner, comme Chantal, 56 ans, elle a pu échanger quelques mots avec les pompiers.
Bon, ils sont épuisés, hein, après ils se relaient, mais bon, ils font tout leur possible, ils ont sauvé pratiquement toutes les maisons. Voilà, ils sont encore là, hein, de toute façon, hein, parce qu'on ne sait pas si ça, c'est fini ou pas, quoi. Avec le vent, ça peut reprendre, on est sûr de rien, quoi.
Ils ont peur qu'il fasse un peu chaud aussi ?
Aussi, ben oui, hein. Et puis en plus, il ne pleut pas, quoi. C'est sec, terrible.
Puis, si vous avez eu une petite confidence de pompiers ce matin, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
Ils ont dit qu'il manquait de moyens, aussi.
Ils espèrent de nouveaux renforts aériens aujourd'hui, car avec le vent fort annoncé et la vigilance orange canicule jusqu'à 37 degrés attendus cet après-midi, la journée risque d'être encore longue.
Rachel Sadodine en direct de Corrence dans le Var pour RMC. En Gironde, il faudra peut-être encore plusieurs mois pour entièrement venir à bout du méga-feu, estiment les pompiers, bientôt épaulés par des collègues d'Ukraine, de Lituanie et même de Polynésie française. La situation pour l'heure est toujours stable et de nombreux habitants vont enfin rentrer chez eux aujourd'hui. Ceux du Porge dès 14h, commune la plus touchée par l'incendie, puis à 19h, ceux de Lèche-Cap-Ferret où Dominique n'a qu'une hâte, retrouver sa maison de vacances.
Enfin quoi, enfin. C'est long, 11 jours comme ça à voir régulièrement toutes ces informations, toutes ces images. Et quand je vais partir, déjà je ne vais pas traîner et j'aurai une certaine angoisse parce qu'on va sûrement passer dans des endroits qui ont été impactés par le feu. Je vais surtout voir si sur ma terrasse il y a des cendres, tout ça. Peut-être aérer la maison parce que les odeurs de fumée, ça s'infiltre partout. Je ne sais pas ce qui m'attend, honnêtement, on verra.
Et il faudra encore patienter un peu dans les campings évacués. Pas d'autorisation pour l'instant. Une opération de déminage est en cours. Des obus de la Seconde Guerre mondiale ont été découverts dans plusieurs communes. Des orages attendus en fin de journée dans le sud-ouest. 7 départements en vigilance orange à partir de 16h, de la Dordogne jusqu'à l'Ariège.
Et Clara, cet incendie-là aurait largement pu être évité.
Plus de 2 hectares partis en fumée avant-hier dans un parc de la ville de Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. C'est en région parisienne à cause de mortiers d'artifice avec lesquels auraient joué des enfants de 10 ans. Le maire de la ville dénonce ce matin sur RMC un acte grave et l'irresponsabilité des parents. Colère partagée à Neuilly-sur-Marne, Ameline Lafchin.
Devant la terre brûlée, le regard pantois de Fatia, venue constater les dégâts dans ce parc qu'elle apprécie tant, cette habitante a du mal à trouver les mots.
Là, c'est vraiment... Il n'y a plus rien.
Oh. Ah ouais,
c'est sec, il n'y a rien. Là, je suis choquée. Vraiment choqué.
Mais ici, ce qui fait surtout réagir, c'est que 3 enfants d'une dizaine d'années sont à l'origine de l'incendie.
En tant que parent, on peut être que choqué, quoi, parce que qui laisserait ses enfants jouer avec des mortiers. Je me demande aussi surtout où est-ce qu'ils s'en sont procurés, parce qu'à 10 ans, je ne peux pas comprendre comment ça a pu échapper aux parents, en fait.
C'est pas tolérable, quoi. Je comprends pas. Les parents devraient
faire plus attention à leurs enfants.
Vous comprenez la colère du maire ?
Ah oui ? Ah bah il y a de quoi ?
D'autres comme Mathieu tempèrent et évoquent une bêtise qui a mal tourné.
Des enfants de 10 ans, c'est très facile à accuser. Bien sûr, ils ont fait leur bêtise, mais les herbes étaient séchées et elles faisaient à peu près... on va dire 50-70 cm de haut et depuis longtemps.
Selon lui, l'absence de débroussaillage de la végétation a favorisé la propagation de l'incendie.
Le reportage d'Ameline Lafchin, des douches de plage qui coulent à flot en pleine alerte sécheresse. C'est ce qui se passe en ce moment à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, où l'alerte renforcée pour la sécheresse oblige normalement à fermer les douches sur la plage, ce que refuse de faire le maire de la ville, Anna Jojard.
À peine sortie de la mer, Florine en profite pour se prendre une douche bien fraîche.
C'est très pratique pour quand on sort de l'eau avec le sel, enfin, c'est du sel, avec moins collant, moins, ça tire moins la peau, je trouve.
Des douches qui devraient pourtant être fermées, ordre de la préfecture en cette période de restriction d'eau. À la place, on peut lire des affichettes collées sur le portant des douches.
Une douche suffit, faut pas appuyer sur le bouton plusieurs fois, faut pas remplir les bouteilles d'eau avec ou les seaux d'eau.
Des gestes de bon sens, pas toujours respectés sur cette plage.
Si vous regardez, il y a un gamin là, il vient, il repart, il ressort et se rince de nouveau.
Ça appuie, ça réappuie.
Ça fait 2 mètres sur le sable, ça va rincer les chaussures, ça revient. Oh non, mais c'est infernal.
Au point que certains regrettent que ces douches restent ouvertes.
C'est du gaspillage.
Ça sert à rien en fait. On va aller se doucher à la maison, ça fait beaucoup de gaspillage.
Mais la mairie reste sur ses positions pour des raisons sanitaires, explique Éric Duplay, adjoint au maire.
Il peut y avoir des micro-algues, des micro-plastiques ou même de temps en temps des quelques bactéries qui traînent par là. De toute façon, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous baigner avec la même eau et ça dépensera de l'eau aussi. Donc.
Et il estime que ces douches de plage représentent 3% de l'eau totale utilisée par sa commune.
Ah, ça a fait réagir en plateau pendant la diffusion de ce reportage. Des douches de plage qui coulent à flot en pleine alerte sécheresse. Ça vous choque ou pas? Vous nous appelez au 3216.
Le bilan s'alourdit à Ceuta, cette enclave espagnole frontalière avec le Maroc. Selon Madrid, au moins 72 morts parmi les dizaines de milliers de personnes migrantes. Selon le gouvernement espagnol, la quasi-totalité d'entre elles ont depuis été renvoyées au Maroc. Des passages illégaux qui alimentent la crise politique. Plusieurs pays, dont l'Italie, appellent à exclure l'Espagne de l'espace Schengen. Mais Thomas Becker, service politique d'RMC, Paris est aux côtés de Madrid. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, organisera demain une réunion avec ses homologues européens.
Oui, face à la vingtaine de pays, principalement emmenés par l'Italie, qui compte mettre la pression sur l'Espagne, la France se placera en solidarité de son voisin, comme le Portugal, pour dénoncer une instrumentalisation de ce que l'entourage du ministre de l'Intérieur français présente comme une crise ponctuelle. Laurent Nunez, qui prévoit de rappeler à l'occasion de cette réunion deux éléments. D'abord, Ceuta est bien dans l'espace Schengen, mais les contrôles au départ et aux arrivées sont systématiques. Aucun migrant n'a rejoint le continent à l'aune de cette crise, précise Beauvau. Ensuite, le ministre compte rappeler que sur ces 5 dernières années, le principal pays d'entrée des migrants illégaux en Europe est l'Italie, près de 480 000 clandestins, plus du double par rapport à l'Espagne. La France se place clairement en solidarité du gouvernement Sanchez, le seul dirigeant socialiste revendiqué des pays membres de l'Union européenne.
Thomas Becker, service politique d'RMC. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran reprendront aujourd'hui, annonce de Donald Trump dans la nuit, après avoir dit renoncer à frapper Téhéran, qu'il menaçait d'une nouvelle attaque majeure.
Clara, ce matin, tu joues les oiseaux de mauvaise augure. Vacances, j'oublie tout. Mais plus pour très longtemps.
Et oui, c'est la reprise pour certains juilletistes aujourd'hui. Et il va falloir se motiver pour ces vacanciers de retour à Paris, rencontrés en gare Montparnasse hier soir.
Flemme extrême, mais il faut bien y aller. J'ai préféré être à la plage. Mais bon, j'accepte. Réfléchir à caler ses prochaines vacances. Ça peut être une bonne activité de retour au travail.
Je trouve que les vacances, c'était bien. C'était long, c'était reposant. Bah, je suis pas si mécontent de revenir aussi. On est plus tranquille, c'est plus posé. En vrai, c'est pas si mal de bosser en août.
Ah non, j'ai la tête dans le sable, dans les vagues, mais pas du tout envie de reprendre, quoi. Me réveiller à 4h30, ouais, ça va être compliqué. 2 semaines, c'est trop court, je pense. Il faut vraiment 3 semaines pour se reposer réellement, je pense. Faut y aller, et puis on n'a pas le choix, de toute façon. Faut bien manger.
Allez, courage à tous ceux qui reprennent.
Il en faut.
Pour vous consoler, tiens, le Tour de France Femmes qu'on vit ensemble sur RMC. 3e étape aujourd'hui entre Genève et Poligny dans le Jura. Hier, c'est la néerlandaise Lorena Wiebes qui l'a une nouvelle fois emportée. Mais les Françaises pourraient se démarquer aujourd'hui et pas seulement Pauline Ferrand-Prévot, Pierre Thévenet.
Oui, sur les routes du Jura, entre Genève et Poligny, une coureuse comme Cédrine Kerbol pourrait briller.
Évidemment, on a envie de bien faire, d'en mettre partout, de se faire plaisir surtout. Sinon, on ne ferait pas de vélo et puis le reste suivra.
La Bretonne est habituée à être à l'avant sur le Tour de France. Elle a remporté une étape il y a 2 ans. Sa compatriote Émilie Morier a la même ambition. Elle a déjà tenté d'attaquer à Lausanne il y a 2 jours.
Ouais, moi je me sens vivante quand je m'échappe, quand je joue sur mon vélo. Donc bon, c'est le vélo que j'ai, mais bon, il faut que je reste patiente. Mais je sais que physiquement, je vois que ça marche bien, ouais.
On va te revoir à l'avant.
Ouais, bah, c'est le but, hein.
L'étape du jour avec 4 ascensions aurait parfaitement correspondu à Maëva Skiban, la Bretonne, qui avait raflé 2 étapes en solitaire l'an dernier, mais qui n'aura pas la même liberté.
Bah, cette année, l'objectif principal, c'est le classement général encore, bien sûr, pas avec moi. Hein. Voilà, je serai là pour aider les filles d'équipe. Ce qui s'est passé l'an dernier, c'est pas forcément ce qui se passera cette année.
Maëva Skiban retenue par son rôle d'équipière, Pauline Ferrand-Prévot concentrée sur le classement général. D'autres coureuses vont devoir prendre des risques aujourd'hui pour gagner et, contrairement aux hommes, offrir une victoire d'étape française au public.
Étape à vivre à partir de 15h dans l'intégral tour sur RMC.
Merci Clara, et prochain journal ce sera à 8h30. Allez, on prend tout de suite la direction de Corrence dans le Var. Bonjour Nicole Ruland.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Nicole Ruland. Vous êtes la maire de Corrence, donc 3 jours sans eau, sans électricité, sans téléphone. Votre commune est confrontée aux incendies, elle est restée totalement coupée du monde depuis vendredi dernier, encerclée par les flammes. Alors tout d'abord, Nicole Ruland, quelle est la situation ce matin? Est-ce que les habitants peuvent aller et venir librement dans la commune?
Oui, depuis hier soir, le préfet a autorisé l'ouverture de la départementale 45, qui est aujourd'hui encore notre seul accès, mais bon, on est bien content de l'avoir. Pour ce qui est de la situation, on a eu une grosse intervention d'Enedis sur notre commune pour mettre des groupes électrogènes un petit peu partout pour essayer d'alimenter les forages. Donc l'eau est revenue dans le réseau et l'électricité aussi. Hier, on a eu des grosses difficultés parce qu'on n'avait plus non plus de télécommunications et mobiles en particulier, ce qui rendait la tâche des secours très difficile puisqu'il n'y avait plus de liaison. Même la liaison radio était compliquée. Donc, Orange est intervenu hier et on a au niveau aujourd'hui des possibilités de réseau sur notre commune, ce qui est déjà une bonne chose.
Combien d'habitants à Corrence, Nicole Ruland?
900.
900 habitants. Vous avez été surpris par la violence, par la rapidité de cet incendie?
C'est incroyable. Les pompiers eux-mêmes n'ont jamais vu ça. On est dans des conditions de sécheresse extrême, avec des températures qui avoisinent les 40 degrés, un vent qui est tourbillonnant, qui change tous les jours de direction. Hier, on avait un vent d'ouest, aujourd'hui c'est un vent d'est, donc le feu s'en va un jour d'un côté et le lendemain il revient dans l'autre sens pour brûler ce qui reste à brûler. C'est très anxiogène.
Le bilan, c'est quoi le bilan ce matin matériel?
Alors le bilan matériel, on a la confirmation de 5 ou 6 maisons qui sont complètement détruites. Les personnes peuvent regagner leurs habitations seulement depuis hier soir. Donc je pense qu'on aura un bilan plus précis dans la journée puisque les gens vont venir déclarer leur sinistre en mairie.
Sans compter la végétation, c'est la quasi-totalité de la végétation qui a brûlé. Hein.
Alors Toutes les forêts de notre commune ont été parcourues, ce qui veut dire que elles n'ont pas toutes brûlé, mais elles ont toutes été impactées. Il y a encore des poches de verre qui sont en ce moment, tous les après-midi, l'objet de reprises. Écologiquement, c'est une catastrophe. Mais bon, ça c'est pour l'après.
Ouais. Et il faudra passer à l'après rapidement. Merci beaucoup Nicole Ruland, maire de Corrence, d'avoir été avec nous en direct donc de Corrence dans le Var. RMC,
8h13. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Ouais, le front des incendies, après 10 jours d'incendies, des dizaines de milliers d'hectares partis en fumée, des centaines de maisons brûlées, ça c'est la Gironde. Le méga-feu a enfin été fixé ce week-end, mais pour les sinistrés, commence, on en parlait là déjà à l'instant avec la maire de Corrence. Une autre épreuve désormais, celle des assurances. Quand pourront passer les experts? Quels seront les délais pour signaler un sinistre, pour être dédommagé? On fait le point dans un instant avec Olivier Moustakakis, il est le directeur général d'Assurlande. A tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 8h17, après le mégafeu en Gironde, enfin fixé depuis samedi pour les sinistrés, commence maintenant un parcours du combattant, faire jouer les assurances. La préfète Sophie Brocas a promis d'accélérer le passage des experts. Bonjour Olivier Moustakakis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC. Vous êtes le directeur général d'Assureland, comparateur d'assurance en ligne indépendant. Concrètement, on va tout de suite être concret, Olivier Moustakakis. Un sinistré, là, aujourd'hui, en Gironde, ce matin, dès aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire? Les habitants du Porge et de l'Eschcap-Ferré, par exemple, qui vont pouvoir revenir chez eux à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais d'abord par rapport à mon assurance?
Alors, la première chose à faire, c'est déjà de contacter son assureur pour faire une déclaration de sinistre. D'accord? Ça, c'est le premier point indispensable. Alors, les assureurs ont prévu une extension. Vous avez jusqu'au 31 août pour faire votre déclaration. Le principe, c'est de ne pas attendre. À partir du moment où vous rentrez à votre domicile, vous constatez l'étendue des dégâts, immédiatement, vous prenez des photos, vous contactez votre assureur pour qu'il puisse ouvrir immédiatement votre dossier pour votre sinistre. Premier point, d'accord. Ensuite, il y a deux cas de figure possibles. La grosse majorité des dossiers, d'accord, parce qu'il va falloir que ce soit expertisé, peuvent être traités très rapidement. Quand je dis très rapidement, c'est-à-dire indemnisation sous quelques semaines, puisque la télé-expertise s'est répandue maintenant depuis 2020. Donc les experts peuvent intervenir à distance, par visio, ou simplement via une vidéo, d'accord, pour les sinistres de faible étendue, d'accord. Là où ça se complique, c'est pour les maisons qui ont été entièrement détruites, et on le voit malheureusement cette année.
Quand il n'y a plus rien, quand je n'ai strictement plus rien, j'ai plus de papier, même les factures, j'ai plus rien, je fais comment?
Alors là, c'est plus compliqué en effet, parce que là, il va y avoir une obligation de passage d'un expert sur site, qui va devoir faire des maîtrises précis, constater, mesurer l'étendue des dégâts, pour ensuite remettre son rapport. Et là, malheureusement, ça peut prendre plusieurs semaines, parce qu'il faut déjà qu'il ait accès à la zone. Toutes les zones aujourd'hui ne sont pas encore forcément accessibles. Premier point, d'accord. Ensuite, il va falloir que lui détermine par rapport à des photos que vous aviez prises de votre habitation. Quand même, si vous avez conservé des factures sur vos relevés bancaires, il ne faut pas hésiter à transmettre tous les éléments possibles à l'expert. Mais ça va prendre malheureusement plusieurs semaines pour déterminer le montant, si vous voulez, de la première indemnisation.
Une question cruelle, je me mets à la place de ceux qui ont tout perdu. Quand je suis assuré, je peux pas me faire aider par mon assurance, pour rassembler tout l'ensemble de ces documents. C'est compliqué quand on a tout perdu.
Alors, transmettre des photos, vous avez forcément, je l'espère, des photos de votre habitation quand elle était en très bon état, d'accord? Donc des photos qui sont récentes, avant malheureusement le sinistre qui vient de se produire. Donc transmettre tous ces éléments-là à l'expert, qui va les consolider, d'accord? Et ensuite, le mécanisme, parce que les gens ne comprennent pas forcément comment ça fonctionne, l'assureur indemnise en fait la reconstruction en deux versements distincts. D'accord. Le premier versement, en fait, c'est ce qu'on constitue la valeur d'usage, c'est-à-dire que l'expert va chiffrer le coût de la reconstruction en neuf, d'accord. Ensuite, il va déduire dans un premier temps la vétusté, donc l'usure du bien, par exemple l'âge de votre toiture, l'électricité, si elle a été refaite il y a 10 ans, etc. D'accord. Et ensuite, il y a deux cas de figure possibles. Le second versement permet de récupérer, par exemple, la vétusté si vous avez souscrit un contrat valeur à neuf, d'accord. Et que vous reconstruisez effectivement dans les 18 mois, 2 ans, d'accord. Là, ensuite, l'assureur vous versera le complément, d'accord. Donc, au total, la reconstruction sera bien financée à neuf. Mais ça se fait en deux versements différents. Donc, il est essentiel, si vous voulez, que les assureurs versent rapidement le premier acompte, d'accord, pour pouvoir commencer, si vous voulez, les travaux.
Il y a également la question, parce que là on parle des particuliers, des entreprises. On pense notamment à celles qui n'ont pas été touchées directement par l'incendie, mais dont l'activité a été complètement stoppée. Qu'est-ce qu'on fait pour elles?
Alors, il n'y a pas eu de dommages directs, on va se retrouver dans une situation malheureusement qu'on a vécue lors du Covid, d'accord. La majorité des contrats prévoit une indemnisation si vous avez souscrit par exemple une garantie perte d'exploitation, d'accord. Mais à partir du moment où il y a eu un dommage, donc si l'entreprise n'a subi aucun dommage, simplement le fait qu'elle n'est plus accessible, que l'activité s'est arrêtée parce que personne ne peut accéder pendant une période de temps plus ou moins importante sur l'entreprise et sur site, tout va dépendre du contrat que vous avez souscrit. Si vous avez souscrit un contrat perte d'exploitation avec ce type d'option, vous pouvez être indemnisé en perte d'exploitation, mais la majorité des contrats les contrats, on va dire, standards, excluent hein, ce genre de choses. Il faut vraiment qu'il y ait eu un dommage direct pour pouvoir être indemnisé.
Sachant qu'il y a 23 000 entreprises qui ont été touchées par cet incendie en Gironde. C'est phénoménal.
Ah, c'est phénoménal, hein, puisque si on se réfère à 2022, hein, on avait eu, je crois, près de 19 habitations qui avaient été touchées. Là, déjà, on parle de plus de 150, voire 200 habitations qui auraient
240 maisons totalement détruites et 183 rien que dans le village du Porche, voilà, par exemple.
Clairement, le coût va être très supérieur à celui hein, qui a été indemnisé en 2022. Mais bon, après, la bonne nouvelle, c'est que la garantie incendie existe et c'est la garantie, on va dire, de base hein, de la plupart des contrats. Donc, les gens seront indemnisés. Voilà, toute la difficulté. Ensuite, par exemple, pour les reconstructions, ça va être la mobilisation des artisans. Est-ce qu'ils sont disponibles ou pas ? D'accord ? Est-ce que les matériaux sont disponibles ou pas ? C'est ça, in fine, les véritables goulots d'étranglement.
Et une autre question, forcément... Face à ce type de catastrophe qui se multiplie, les primes d'assurance vont augmenter pour l'ensemble des Français.
Alors, les primes d'assurance, on le voit hein, depuis plusieurs années, avec l'augmentation de la sinistralité, notamment la sinistralité climatique, augmente année après année. Entre 2025 et 2026, on a encore subi une hausse de 13%, ce qui est très important. Hein, d'accord ? Alors, oui, les incendies vont faire augmenter, entre guillemets, la facture, mais ça reste quand même derrière, si vous voulez, les phénomènes de grêle, les phénomènes d'inondation, les autres sinistres. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'incendie en habitation, par exemple, c'est le sinistre le moins fréquent, fort heureusement, d'accord ? Le plus coûteux, mais le moins fréquent. Voilà, donc il y a d'autres sinistres, malheureusement, qui seront devant en termes d'augmentation des tarifs.
Une dernière question très rapidement, Olivier Moustakakis. C'est une vue de l'esprit ou pas, quand on dit que parfois les assureurs, certains assureurs en tout cas, traînent un peu des pieds pour rembourser ?
En l'occurrence, c'est tout l'inverse, parce que les assureurs n'ont pas intérêt à traîner des pieds, puisque dans les contrats, il est prévu la prise en charge des frais de logement hein, sur des périodes plus ou moins étendues. Hein, ça peut aller jusqu'à 12 mois et voire plus, hein, selon les contrats. Donc les assureurs ont intérêt, au contraire, à indemniser rapidement. Le vrai goulot d'étranglement, c'est pas les assureurs. C'est un, l'accès aux zones. Deux, la mobilisation des experts. Et ça dépend pas malheureusement des assureurs directement. D'accord ? Pour avoir un chiffrage précis et pouvoir commencer à verser les premiers acomptes. Donc là où les assureurs, en revanche, peuvent intervenir, c'est se mobiliser, mais je pense que ça va être le cas, puisque déjà ils ont étendu hein, spontanément, c'est pas le gouvernement hein, qui leur a demandé de le faire, les déclarations de sinistre. Ils ont pris en charge également les frais de relogement des personnes, même si elles n'avaient pas été touchées par l'incendie.
Directement, d'accord. Tout à fait.
Donc ça, c'est une mesure directe des assureurs. Et là, je pense qu'ils vont se mobiliser de la même façon pour essayer de verser le plus rapidement possible les premiers acomptes pour que les gens puissent se mobiliser, mobiliser des entreprises pour commencer les travaux.
Merci beaucoup, Olivier Moustakakis, d'avoir été avec nous, directeur général d'Assureland, comparateur d'assurance en ligne, indépendant RMC, 8h24. C'est l'heure de l'écho avec Pierre Rondeau, notre économiste sur RMC, enseignant également à Paris 1, Panthéon, Sorbonne, Tolbiac.
Exact.
Pierre Rondeau qu'on connaît bien puisque tu interviens très régulièrement également dans Estelle Midi sur RMC. Alors Pierre, depuis hier, les dispositions de l'IA Act sont entrées en vigueur sur le continent européen. On parle de l'intelligence artificielle du quotidien. Voilà, j'ai mon moteur, mon application d'intelligence artificielle que j'utilise tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change, l'IA Act?
Alors, c'est la réglementation sur l'intelligence artificielle considérée comme la plus puissante de la planète qui a été votée il y a 2 ans. Et c'est depuis hier que les premières applications sont mises en place. Concrètement, certaines pratiques comme l'utilisation de l'IA pour tromper ou manipuler les personnes pour exploiter les vulnérabilités sont désormais interdites et sanctionnées. Et les publications générées par l'IA ont dorénavant l'obligation d'être identifiées et étiquetées à travers un logo noir et blanc.
Ça veut dire quoi ?
Alors, par exemple, sur les réseaux sociaux, Instagram ou TikTok, des vidéos générées par l'IA ont maintenant l'obligation de faire apparaître cette mention. Pour les publicités, si une marque ou une campagne de pub utilise de l'intelligence artificielle pour générer et produire du contenu, elle a l'obligation de préciser et de faire apparaître la mention. Et pour la musique et la littérature, c'est un tout petit peu plus complexe. Il va y avoir une distinction entre un pur contenu deepfake qui imite ou singe une œuvre connue, hein, par exemple générer une musique dans le style de Taylor Swift, générer un livre dans le style de Victor Hugo, et une œuvre artistique et créative où l'IA est utilisée comme un soutien et un assistant. Dans le premier des cas, il y a obligation de faire apparaître publiquement la mention IA, et les plateformes peuvent même faire interdire ces musiques ou ces livres. Et dans le deuxième cas, l'œuvre artistique, le texte précise que cette mention doit se faire d'une manière appropriée qui ne nuit pas à la présentation l'émotion ou à la jouissance de l'œuvre. Autrement dit, ça peut rester caché.
Bon, et globalement, si on ne respecte pas cette nouvelle législation.
Alors, l'Union européenne, elle a frappé fort, hein, je répète, c'est la réglementation la plus puissante de la planète. Un bureau spécifique d'investigation, l'IA Office, une sorte de FBI européen, sera chargé d'évaluer et de vérifier les grands modèles d'IA pour s'assurer qu'ils respectent les nouvelles règles. Des amendes pourront être imposées allant de 3 à 7% du chiffre d'affaires total de l'entreprise sanctionnée ou de 15 à 35 millions d'euros. C'est le montant le plus élevé qui sera retenu.
Pour terminer, Pierre, un point, c'est important. Nous sommes en vacances. On utilise beaucoup sa voiture sur les carburants, les prix.
Eh bien, les carburants, l'essence augmente. Hein, 2,025 € pour le samplon 95, 2,231 € pour le gazole. Le gaz aussi augmente à 59,071 €. Mais ça va très certainement baisser puisque le baril de pétrole, lui, baisse fortement à 83,40 €.
Bon, espérons que ça suive derrière. Merci beaucoup, Pierre Rondeau, d'avoir été avec nous. Allez, dans un instant, la météo et le journal sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Guiz. Rebonjour Clément.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Les pompiers toujours mobilisés dans le Var, incendie toujours pas fixé. Les habitants de Corrence, eux, ont pu regagner leur logement et constater les dégâts. Après l'incendie qui a ravagé plus de 42 000 hectares en Gironde, la saison touristique peut-elle être sauvée? Et sur le Tour de France Femmes, la bataille se joue aussi contre la canicule.
L'incendie du Var, toujours pas fixé, Clément.
Et les prochaines heures font craindre le pire, un retour des rafales de vent et vigilance orange canicule. 1850 hectares ont été parcourus par les flammes, une dizaine de maisons détruites à Corrence. La situation s'améliore puisque les routes sont de nouveau ouvertes pour accéder à ce village. Et notre envoyé spécial RMC, Rachel Sadodine, vous avez pu y constater les dégâts.
Des champs entiers d'oliviers calcinés, des collines noircies par les cendres dans les hauteurs de Corrence. Plusieurs maisons ont été dévorées par les flammes. Des fumées s'échappent encore de ce qui devait être un salon. Les tuiles du toit jonchent le sol.
Il reste les quatre murs, il n'y a plus de toiture, plus de fenêtres, il n'y a plus rien.
Assis devant leur maison encore intacte, Laurent et sa femme ne peuvent que constater les dégâts autour d'eux.
C'est la désolation.
Et d'être la seule maison là qui est restée en état dans le quartier, vous vous sentez comment?
On est passé à côté. Malheureusement, on a des amis qui ont perdu leur maison et ils pleuraient, ils étaient pas bien, ça fait de la peine. Ils ont tout perdu.
Sur la commune, malgré la levée du confinement, les habitants peinent à reprendre une vie normale. Ils ont passé près de 48 heures coupés du monde, encerclés par les flammes. Marie-Hélène, 75 ans, a toujours vécu à Corrence. Elle n'avait jamais vu ça.
Les accès au village étaient incendiés. On n'avait pas d'électricité, plus d'internet, plus de téléphone. C'est comme si on était sur une île déserte avec un grand danger.
Un danger qui rôde depuis déjà deux semaines. À chaque reprise de feu, Marie-Hélène a dû évacuer sa maison située en pleine forêt. Cela fait déjà 4 fois qu'elle se réfugie chez des amis dans le bourg de Corrence.
Franchement, moi, je ne vais pas rentrer tout de suite. On a toujours quand même une petite appréhension. On se dit, mais est-ce que ça va finir un jour?
Épuisée, la boule au ventre, la retraitée redoute le retour du vent annoncé aujourd'hui et qui pourrait venir attiser de nouveau ce feu toujours pas fixé.
Et après l'incendie en Gironde, cette fois, Clément, les restaurateurs hôteliers redoutent une saison morte.
Les habitants de l'Esch-Cap-Ferré, certains quartiers du Porche vont retrouver cet après-midi leur logement. Reste maintenant un autre défi, hein, sauver la fin de saison touristique. Le Premier ministre Sébastien Lecornu appelle les vacanciers à venir en Gironde par solidarité. Alors le message a-t-il été entendu? Notre envoyé spécial RMC, Lucas Aubert, s'est rendu à Andernos-les-Bains.
Ils n'ont pas hésité une seconde. Tanguy et Daniel ont changé leur plan par solidarité.
Nous étions en vacances à l'île de Ré et comme il nous restait une journée aujourd'hui, on s'est dit, pour soutenir les commerces et les restaurateurs, on s'est même pas posé la question. On s'est dit, aujourd'hui, on ira en Dernos.
Mais cette solidarité est encore loin d'être suffisante. L'activité des commerces reprend timidement. Séverine, co-gérante d'un café, ne reconnaît plus sa ville.
Ça ressemble en fait à une ville du mois de mai en semaine. Si vous voulez, dans cette rue-là, c'est sans fin. Le matin et soir, ça bouge tout le temps. Donc là, oui, c'est très très calme.
Et elle craint la fin de la saison.
Les gens vont pas oser revenir ou vont peut-être avoir peur, vont se dire je viens pas cette année. On retrouvera pas en fait le chiffre d'affaires qu'on a perdu et il y a un énorme impact.
Même préoccupation pour Aurélie dans son camping. La gérante répond aux centaines de mails des clients pour les rassurer et ça fonctionne.
Il y aura vraiment cette semaine qui va être un petit peu bancale. À partir de samedi prochain, normalement, on est à 100%.
Et pour pallier aux pertes dues à la fermeture de la semaine dernière,
on a souhaité ouvrir un mois supplémentaire jusqu'à fin octobre.
De quoi, elle l'espère, limiter la casse.
Dans l'Aude, l'autoroute A61 a pu rouvrir à la circulation dans les deux sens à hauteur de Carcassonne, lieu où un incendie s'est déclaré hier après-midi. Incendie fixé qui a parcouru plus de 100 hectares et c'est un véhicule en feu sur cette autoroute qui est à l'origine de cet incendie. Des orages attendus sur le sud-ouest du pays, 7 départements, notamment de la Dordogne à la Haute-Garonne, en vigilance orange à partir de 16h. Et les images sont impressionnantes aux États-Unis. Des évacuations massives ces dernières heures en raison d'un violent incendie dans l'État de Washington. Des flammes qui ont ravagé plusieurs centaines de bâtiments. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer.
RMC 8h34, Clément, cet été, la nouvelle destination à la mode, c'est le Nord.
Et c'est le frais face aux canicules à répétition. Les vacanciers boudent les fortes chaleurs et changent leurs habitudes. Ils cherchent la fraîcheur, Bretagne, Normandie, Pas-de-Calais, on la cote. Hein, le taux d'occupation des hébergements marchands a bondi de 11% dans le Pas-de-Calais par rapport à l'année dernière. De quoi donner le sourire aux professionnels du secteur, Martin Lange.
On n'a rien vu venir, s'exclame Marie. Elle tient des chambres d'hôtes à Vimereux sur la côte d'Opale dans le Pas-de-Calais et elle affiche complet jusqu'à mi-août. L'été dernier, son taux d'occupation tournait plutôt autour de 60%.
Là, j'hallucine en fait.
Une des explications, ici, les températures dépassent rarement les 30 degrés.
Les gens tout de suite demandent est-ce qu'on peut déjeuner dehors? Est-ce qu'on va pas avoir trop chaud? La mienne, elle est super bonne, elle est à 20 degrés, donc c'est un peu comme sur la côte d'Azur dans les gros coups de chaleur.
Un constat que partage Mathias, il loue des vélos et des kayaks en Savoie, près du lac du Bourg.
Nous, l'activité, je pense qu'elle augmente d'année en année. Les gens peut-être s'intéressent plus à la montagne et viennent chercher un peu plus de fraîcheur.
Les températures, ça devient un critère dans le choix de sa destination de vacances. Selon Vangelis Panayotis, il est président d'un cabinet spécialisé dans le tourisme.
On se dit finalement, en hiver, allons au soleil et en été, allons au frais. C'est une nouvelle destination alternative qui sont une réponse des consommateurs à ces effets de chaleur écrasante.
Des destinations également prisées pour leur calme et leur bon rapport qualité-prix, selon le spécialiste.
Mais bien sûr, et vous avez décidé également de changer vos plans, par exemple pour vous rendre pour vos vacances dans la plus belle région de France, les Hauts-de-France. Eh bien, vous nous appelez au 32-16. Il n'y a aucun parti pris là-dedans, Clément. Le peloton du Tour de France, femme, affronte un adversaire de taille. La canicule.
Le maillot jaune du Tour de France femme est toujours sur les épaules de Lorena Wiebes après sa deuxième victoire consécutive hier à Genève. Une étape, Maria Azé, disputée dans des conditions très difficiles, notamment à cause d'une chaleur de plomb.
À peine arrivée, toutes les coureuses sautent dans les bains froids comme Juliette Berthet de la FDJ Suez.
C'est vrai qu'il fait chaud à chaque fois un petit peu plus que la météo annonce, quand même pas facile à gérer, on a pas mal de ravito, mais des fois c'est vrai que ça chauffait vraiment dans les bosses. Dans le dos là ça tapait bien, mais je pense qu'on a plutôt bien géré avec les filles.
Plus de 35 degrés entre Aigle et Genève hier, alors Solène Muller, coureuse chez Saint-Michel, trouve des solutions.
Le serviette froide sur le dos tout de suite après l'étape, on met énormément de glaçons dans le dos pendant toute l'étape, on s'asperge d'eau froide, on boit au maximum. Dès qu'on est à l'hôtel, ventilateur et des pads à mettre sous les draps rafraîchissants.
Aujourd'hui, toute pratique, le heat training, des entraînements sous très forte chaleur pour mieux la supporter en course. Pas toujours suffisant pour le directeur de la performance de la FDJ Suez, Flavien Sonnen.
Il y en a qui se gèrent ça très bien habituellement et qui souffrent cette semaine. Des fois, il y a un bidon de perdu, un mauvais moment, un gros effort et on passe la limite. Quand on a le prend le coup de chaud, on n'arrive plus forcément à s'alimenter. Et donc, quand on n'arrive plus à s'alimenter, on n'a plus assez d'énergie pour récupérer correctement. Donc, c'est les protocoles qu'on suit avec le docteur de l'équipe, la nutritionniste et nous, les coachs.
Et le peloton devrait encore souffrir aujourd'hui entre Genève et Poligny avec 38 degrés attendus cet après-midi.
Intégral Tour de France femme dès 15h sur RMC.
Le quintet se déroule sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville à 18h30.
Et le pronostic de la Dream Team, leur favorite est le 7 Sœur, leur outsider est le 2 Al-Saba.
Merci beaucoup Clément. J'étais en train de réfléchir à une chose, c'est que tout de suite je vais lancer Victor Pourchet, parce qu'il y a nombreux messages au 06 12 424 424, c'est le WhatsApp de l'émission, sur l'application RMC également, et vous réagissez également, notamment, à cette histoire d'Antibes. On est sur la côte d'Azur, avec ces douches de plage plutôt, qui sont laissées en activité, ça c'est une décision de la mairie, malgré un épisode de sécheresse peu connu. Hein.
Oui, ça vous fait beaucoup réagir sur le WhatsApp d'RMC. On a d'abord Hervé qui trouve la décision du maire d'Antibes normale. Il me dit, moi je paye le stationnement quand je vais à la plage, je trouve ça tout à fait logique de pouvoir prendre ma petite douche en sortant de la plage. On a en revanche Christian qui lui vient de Toulon, il nous dit que de son côté à lui dans la ville, c'est à l'arrêt ces douches à la sortie des plages, et lui trouve ça tout à fait normal, il ne faut pas gaspiller l'eau, nous dit Christian. Et si moi, j'économise en tant que Toulonnais, je ne comprends pas pourquoi les vacanciers ne feraient pas la même chose. Et puis on a André qui nous propose une solution. Pourquoi pas les rendre payantes, ces douches? 3 minutes et paiement de 2 euros. Les 3 minutes, 2 euros les 3 minutes de douche. Pourquoi pas, quitte à les laisser en activité, gagner un petit peu d'argent pour la commune.
Et vous continuez à réagir, vous nous appelez au 32-16 RMC 8h38.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, ce sera le choix de la rédaction de mauvaises nouvelles en termes de pouvoir d'achat pour les parents. La rentrée scolaire va coûter plus cher que l'an dernier. Un parent sur deux craint même de manquer d'argent pour couvrir ses frais. Et puis juste après, on parlera de Ceuta, l'enclave espagnole au nord du Maroc, qui a vu arriver des dizaines de milliers de migrants par la mer en fin de semaine, des dizaines de morts, de disparus. Et l'Europe qui se divise sur l'espace Schengen, notamment l'Italie veut en suspendre l'Espagne. On va faire le point avec Serge Slama, il est maître de conférence à l'université de Grenoble-Alpes. A tout de suite sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
RMC 8h41. La rentrée scolaire, c'est dans un mois, avec de mauvaises nouvelles en termes de pouvoir d'achat pour les parents. Le budget moyen de la rentrée est en hausse. Il s'élève à 488 euros par famille. C'est 79 euros de plus qu'en 2025. C'est pas rien. Et selon une enquête Cofidis publiée aujourd'hui, plus d'un parent sur deux, 56%, craint même de manquer d'argent pour pouvoir couvrir les dépenses de rentrée scolaire. Lucille Pascanet pour RMC. Vous êtes allée à la rencontre de parents à Strasbourg.
Des seaux et des jets d'eau pour remplacer la mer. Cette année, Marguerite et sa fille de 13 ans ne partent pas en vacances, faute de moyens.
Non, c'est pas prévu cette année.
Impossible pour cette maman d'acheter des fournitures avant le versement de l'allocation de rentrée scolaire.
J'attends avec impatience. On compte là-dessus vraiment pour pouvoir couvrir toutes ces dépenses. Ça vient vers le 18 août. Donc en attendant, on s'adapte. On va privilégier ce qui est gratuit, comme les jets d'eau ici maintenant. Il y a des choses que je repousse à fin août, effectivement.
Selon l'étude publiée ce matin, 44% des familles prévoient de faire durer leurs anciennes fournitures, parfois à l'encontre des envies de leurs enfants. Karim a deux filles de 3 et 12 ans.
Ma fille qui rentre à l'école cette année, ça rajoute plus de dépenses. Et ma fille aînée qui est en 5e, j'essaie de convaincre, ton sac à dos ça marche toujours bien, il ne faut pas le remplacer. Voilà, ça marche comme ça, de négociation entre nous.
J'aimerais bien avoir des choses neuves, mais après j'ai des trucs qui marchent encore, donc je les utilise, on ne va pas faire des dépenses pour rien.
Les parents sont aussi de plus en plus nombreux à se tourner vers la seconde main.
Et Lucille, pour les nouvelles fournitures, celles qu'ils doivent racheter, les parents redoublent d'imagination pour économiser.
Oui, certains achètent en gros, d'autres petit à petit pour ses deux enfants. Misba va où les bons plans l'amènent.
On a acheté quelques fournitures hier et je vous avoue, c'était quelques stylos et quelques cahiers. On en avait déjà pour une trentaine d'euros. J'ai pas encore acheté l'agenda par exemple. Hier, c'était 10 euros. 10 euros pour un agenda, pour un enfant, ça fait quand même assez cher. Non, en fait, là, j'ai fait, par exemple, tout ce qui est colle, j'ai trouvé sur Amazon. Je suis un petit peu les offres qu'on peut avoir sur Amazon ou sur d'autres sites, d'ailleurs, pour pouvoir faire quelques économies.
Fournitures, mais aussi vêtements, activités. Le budget moyen de la rentrée s'élève à presque 500 euros par famille. Pour Sarah, malgré le prix élevé, pas question de priver sa fille de cours de natation.
260 euros l'année, pour 45 minutes par semaine, oui, c'est pas donné.
Le fait de faire du sport, ça apporte beaucoup au niveau de la maturité de l'enfant et... Bon, en fait, on le sait que c'est une fois dans l'année et puis généralement, on économise en amont pour avoir les fonds le moment venu.
Selon l'étude dévoilée ce matin, la majorité des familles absorbent ces dépenses dans leur budget courant, mais 26% d'entre elles déclarent devoir puiser dans leur épargne.
Merci Lucille Pascanet. Allez, on va au 32-16. Retrouvez Alicia. Bonjour Alicia. Bonjour, merci d'être avec nous sur RMC Alicia. On est à Noyelles-les-Vermelles dans le Pas-de-Calais.
C'est ça. Et là, j'étais obligée d'intervenir. Vous avez dit que c'est pas chaud chez nous.
J'ai jamais dit ça. Moi, j'ai dit ça. Moi qui habite dans le Nord et qui vis dans le Nord. Non. Mais peut-être que quelqu'un l'a dit. Mais bien sûr qu'il fait chaud.
Ah, quand j'ai entendu dans le reportage, nous, ça va rarement au-dessus des 30 degrés, je me suis dit, ah, mais ils n'ont pas de thermomètre. Ils ne sont pas venus chez nous. J'ai dû installer des ventilos dans la maison.
C'est vrai, parce que vous avez souffert des épisodes caniculaires. Et désormais, et j'en parlais à l'instant avec Victor Porcher. Moi, j'habite dans le Nord, hein, Alicia. Et c'est vrai que ça ne descend quasiment plus jamais en dessous des 30 degrés désormais.
C'est ça, aujourd'hui, là, c'est 33 à l'ombre, je crois qu'il annonce. Nous aussi, ça monte. Par exemple, la pelouse va les griller. Ça va faire un mois que j'ai pas tendu, ça sert à rien, ça bouge plus.
Ah ouais, c'est de la paille. Moi, la dernière fois que j'ai tendu, c'était au mois de juin, je crois.
Ça doit être ça début juillet peut-être, parce qu'il y a que les mauvaises herbes qui passent, mais on dirait, j'ai un cousin à Perpignan, bah, on a les mêmes pelouses que chez eux, donc il fait chaud aussi chez nous.
Mais c'est ça. Mais est-ce que ça vous inquiète, Alicia?
Franchement, ça me fait peur, parce que j'ai jamais vu autant de jours sans pluie. Je vois, moi, il y a plein de champs autour de chez moi, les pommes de terre ne poussent pas. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui va peut-être faire peur un peu pour l'économie, parce que je pense que tout ce qui est fruits et légumes, ça va être compliqué. Ça commence à faire peur, parce que chez nous, d'habitude, un épisode caniculaire dans l'année, c'est 2-3 jours et on s'en sort. Là, on a dû s'équiper, on doit fermer nos volets. Nous, on ne faisait pas ça avant.
On achète des moustiquaires maintenant dans le Nord.
Aussi, oui.
Ah oui, non, mais on vit la même chose, Alicia. Essayons de voir le verre à moitié plein. Alicia, est-ce que vous pensez que ça puisse un jour développer le tourisme un peu plus par chez nous?
Ah, je vois beaucoup plus de monde. Et puis même, les gens autour de moi, par exemple, nous, on va à Berck. Il y a la mer, il y a plus de gens qui vont à... D'habitude, on y va une fois par an, peut-être. Et là, je vois, il fait trop chaud ce week-end, allez hop, on va à Berck. Donc déjà, nous, on va faire vivre la Côte d'Opale, tout ça. Donc je pense qu'après, oui, il y a les étrangers, il y a aussi maintenant les sudistes qui viennent chez nous.
Oui, bon, ça sera peut-être... Ça sera peut-être encore une fois le verre à moitié plein pour le nord du pays. Merci beaucoup Alicia d'avoir été avec nous. Belle journée du côté de Noyelles-les-Vermelles, Pas-de-Calais. Il fera 35 aujourd'hui encore une fois. Bonjour Serge Slama.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. Vous êtes professeur en droit public à l'université de Grenoble-Alpes. Serge Slama, c'est peut-être du jamais vu, c'est certainement du jamais vu en aussi peu de temps. Au moins 60 000 migrants arrivés en seulement quelques heures entre jeudi soir dernier et vendredi dans l'enclave espagnole de Ceuta, dans le nord du Maroc. Tous, depuis, ont été ramenés de l'autre côté de la frontière, mais plusieurs dizaines d'entre eux seraient morts noyés. Des arrivées aussi massives, Serge Slama, est-ce que vous avez déjà vu ça?
Ah oui, on a déjà vu ça entre la Turquie et la Grèce ou dans la forêt entre la Biélorussie et la Pologne. C'est des phénomènes d'instrumentalisation. Alors c'est une situation complexe. Hein. C'est lié au contexte marocain très spécifique au moment de la fête du trône du roi Mohamed.
Racontez-nous.
Oui, en fait, donc il y a ce contexte marocain très spécifique qu'il faut pas ignorer. Hein. C'est-à-dire, il peut y avoir à l'intérieur du Maroc différents courants et le Maroc essaye de donner une belle image. Vous savez, ils ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations, ils vont organiser co-organiser la Coupe du Monde. Ils essayent de se montrer comme un pays moderne. Et là, il y a 50 000 jeunes qui essayent d'aller en Europe à travers Ceuta. Donc, il y a ce phénomène marocain. Il y a la relation avec l'ancien colonisateur, l'Espagne, qui est toujours très complexe avec la question des Sahraouis, du Sahara occidental, comme vous le savez. Et puis il y a ce phénomène des réseaux sociaux qui a fait caisse de résonance sur une décision du tribunal suprême espagnol, très technique, difficilement compréhensible, mais qui a donné l'idée que s'ils arrivaient sur le Ceuta, ils seraient admis sur le territoire espagnol et donc européen.
Serge Lama, est-ce que vous partagez ce que disent certains? La situation elle est complexe, mais est-ce que c'est une manœuvre voulue par le Maroc pour faire pression sur l'Espagne, parce que le Maroc revendique toujours la possession de cette enclave de Ceuta?
Non, je pense que c'est une lecture trop simpliste. Alors, il y a cette relation entre anciens colonisés et colonisateurs, comme entre la France et l'Algérie. Vous savez, nos relations sont complexes. Mmh. On a déjà vécu ce type de phénomène migratoire aussi. Vous savez, sur les visas, les laissez-passer consulaires, etc. Donc, c'est à prendre en compte, mais en réalité, c'est un mélange. Il y a un aspect circonstanciel. Cet événement du tribunal suprême espagnol, la caisse de résonance des réseaux sociaux, le malaise économique d'une partie de la jeunesse marocaine qu'il faut pas ignorer.
38% des jeunes marocains sont au chômage aujourd'hui.
Voilà, exactement. Donc tout ça fait qu'il y a eu ce phénomène de caisse de résonance. Je ne suis pas sûr. Quand on voyait entre la Turquie et la Grèce en 2015, très clairement, les Turcs pousser les Syriens à aller en Grèce parce qu'ils négociaient avec l'Union Européenne et quasiment du jour au lendemain, ils ont coupé les flux. Là, c'est différent, le contexte est très spécifique et la plupart d'ailleurs de ces jeunes sont arrivés dans cette enclave, ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas accueillis, mal accueillis, pas pris en charge et la quasi-totalité sont repartis dans la journée ou le lendemain par leurs propres moyens une fois que les portes ont été ouvertes.
Serge Slama, le gouvernement socialiste espagnol de Pedro Sanchez dénonce l'égoïsme de l'Europe sur la question migratoire. C'est vrai que l'Espagne, elle paraît bien seule sur cette question.
Oui, oui, c'est le vrai problème, et les autres États européens se sont tournés au ridicule, parce que on vient d'adopter en 2024 un pacte européen sur la migration asile. Et dans le cadre de ce pacte, il y a un mécanisme de solidarité. Il est entré en vigueur en juin de 2026. Les États d'entrée dans l'Union européenne doivent filtrer, donc les Espagnols devaient filtrer l'ensemble de ces étrangers ressortissants de pays tiers qui rentrent dans leur pays. Et en contrepartie, s'il y a un afflux massif, ce qu'on appelle ce qui est arrivé là, il y a 50 000 migrants d'un coup, c'est un afflux massif de migrants, il y a un mécanisme de solidarité qui aurait été mis en œuvre. C'est-à-dire tous les États ont dû coopérer pour soit accueillir les demandeurs d'asile, soit éventuellement renvoyer ceux qui n'avaient pas droit au séjour. Et là, en fait, il n'y a pas eu du tout de solidarité. On a même vu le ridicule, la première ministre italienne qui rétablit des contrôles frontaliers, qui dit même qu'elle suspend Schengen alors que ce n'est pas possible, alors même que l'Italie n'a pas de frontière terrestre avec l'Espagne.
Pourquoi l'Italie fait ça?
Bon, je pense que c'est une question d'instrumentalisation politique. L'extrême droite a essayé de saisir cet événement-là pour remettre en cause à nouveau Schengen, alors que ça vient d'être révisé en 2024, pour remettre en cause des normes qui adoptées par ses propres États. Hein, le pacte européen sur la migration asile, c'est une majorité de droite et d'extrême droite qui l'a adopté, comme le règlement retour qui rentre en vigueur, enfin qui vient d'être adopté aussi. Mais ils se sont ridiculisés parce que quelque part c'est le premier ministre socialiste ici qui l'a géré calmement, l'Espagne, qui a demandé la solidarité européenne, et grosso modo, l'Espagne, enfin, elle a pas maltraité les migrants qui sont arrivés, ils sont repartis eux-mêmes, enfin, ils ont géré la situation comme ils devaient le gérer. Cette situation.
La France a annoncé qu'elle multipliait par 5 la présence policière des forces de l'ordre, en tout cas aux frontières avec l'Espagne. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est une attitude un peu...
Alors, la France ne pouvait pas annoncer un rétablissement des contrôles frontaliers comme l'Italie, puisqu'on l'a rétabli depuis le 13 novembre 2015. Hein, et je parle bien de 2015 pour la COP21, puis les attentats. Et donc, en fait, on ne pouvait pas les rétablir. On peut très bien renforcer les contrôles, ça ne va servir strictement à rien. Et puis, vous savez, ces escadrons mobiles qui font les contrôles à cette frontière espagnole, on les retire du Briançonnais à la frontière franco-italienne, on les retire du Calaisie, on les retire de Mayotte. Il faut bien les prendre quelque part, on ne multiplie pas les forces de l'ordre comme ça. Donc ça veut dire que si on fait plus de contrôle entre la France et l'Espagne, vous aurez moins de contrôle ailleurs. Enfin, donc il n'y aura pas moins de passages en réalité.
Que prévoit... Alors il y a une réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne qui est prévue demain. Qu'est-ce qui peut en sortir? Est-ce qu'on peut enfin espérer qu'un jour... l'Europe parle d'une même voix?
Mais en réalité, le pacte est rentré en vigueur le 12 juin, donc il faut l'appliquer. Ici, les Espagnols pouvaient très bien appliquer le pacte et appliquer le filtrage, et il pouvait y avoir un mécanisme de solidarité en cas de besoin. Ça ne sert à rien d'inventer de nouvelles règles. Schengen a été révisé en 2024, donc là aussi, il suffit d'appliquer la révision. Je pense que oui, ils peuvent se mettre d'accord sur des mesures, mais ici, en réalité, la seule mesure, elle vient d'être faite, c'est de mettre dans la mer des obstacles frontaliers. La Cour suprême espagnole a estimé que s'il y avait des obstacles dans la mer, c'était un forçage frontalier, et pouvait y avoir des refoulements sommaires, des refoulements à chaud dans la journée. Enfin, c'est ce qui est possible. Si des migrants forcent collectivement une frontière, ils peuvent être refoulés immédiatement.
Il y a eu des retours massifs donc vers le Maroc. Hein, on l'a vu jeudi, entre jeudi et vendredi, plus de 60 000 personnes qui arrivent à Ceuta, territoire espagnol. Est-ce que ces retours massifs vers le Maroc sont tout simplement conformes au droit d'asile? C'est ce que dénoncent un certain nombre d'associations.
Alors, il semble ici, ils ont été mal accueillis. Hein, les commerçants ont fermé leur devanture, ils les ont pas nourris, etc. Donc mais il semble que la quasi-totalité sont repartis d'eux-mêmes. Ils ont ouvert les portes. Donc dans ce cas-là, on peut pas reprocher aux autorités espagnoles d'avoir ouvert les portes et que les gens repartent d'eux-mêmes. Il y a pas de souci. En revanche, si dedans il y a des mineurs non accompagnés ou il y a des demandeurs d'asile qui souhaitent faire une demande d'asile, il faut les examiner. C'est là où le pacte européen sur l'asile et l'immigration, il y a un règlement filtrage qui est applicable. Ils doivent examiner la demande d'asile. Ils ont 12 semaines pour ça. Hein, c'est prévu. Il est possible de les maintenir dans des lieux frontaliers. Il y a tout un dispositif qui a été mis en œuvre. Donc, il suffit de le mettre en œuvre. À nouveau, hein, les normes existent. Donc voilà. Alors après, je pense pas que dans ce contexte-là, on puisse reprocher grand-chose aux autorités espagnoles sur un territoire aussi restreint. Il y a pas grand-chose. Enfin, ils ont déjà des systèmes de prise en charge des migrants vulnérables, notamment. Donc là, s'il reste des mineurs dans leurs rues, ils doivent les prendre en charge, par exemple.
Serge Tama, une dernière question. Ce type d'événement, est-ce qu'il est amené à se reproduire?
Oui, parce que vous venez d'en parler. Je suis aussi originaire du Nord, hein, d'ailleurs. Ouais. Je suis à Grenoble. Bah, vous voyez bien, il fait chaud dans le Nord et il fait chaud partout et on a des successions de canicules, ça impacte l'eau, il va y avoir un dérèglement climatique qui va s'accentuer, les inégalités économiques sont de pire en pire. Enfin, on voit bien que le monde va être de plus en plus déréglé, dérégulé. Et quand un monde est dérégulé, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a des migrations depuis toujours, hein, la migration, un phénomène naturel, voilà. Et quand un lieu devient vivable, vous cherchez à avoir un endroit où vous pouvez vivre mieux. Enfin, je veux dire, vous feriez pareil si votre climat se dégradait. Donc, on a incapacité de gérer cette migration et de l'anticiper.
Merci.
En réalité.
Merci Serge Lama, on est pris par le temps. Merci Serge Lama, professeur de droit public à l'université de Grenoble-Alpes. Allez, dans un instant sur RMC, le journal de 9h et puis le meilleur des grandes gueules. On se retrouve demain à partir de 7h. À demain.